France Inter.
Monsieur Emmanuel Macron a déclaré ouvert le jeu de la 33e Olympiade Paris 2024.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
C'était il y a presque 6 mois, jour pour jour. La vasque olympique s'embrasait et s'élevait dans le ciel de Paris et le président Macron donnait le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Des Jeux pleins de promesses, bien avant ce top départ. Des Jeux pensés avec des superlatifs, mais aussi avec la volonté affichée d'être raisonnable et raisonné dans la dépense, dans la construction et durable dans le réinvestissement. C'est d'ailleurs ce qui avait séduit le Comité international olympique. La France avait promis d'utiliser 95% des bâtiments existants pour les athlètes, sans construire plus de 5% d'infrastructures nouvelles. Paris jurait que tout serait réutilisé et cultivé, aux antipodes de l'exemple des JO d'Athènes, considérés comme les plus coûteux de l'histoire 20 ans plus tôt, laissant des infrastructures en friche et un pays endetté. La France s'engageait à organiser des Jeux éco-responsables avec un avenir pour tous après les médailles. Parmi les promesses les plus marquantes, que tous puissent se baigner dans la Seine, comme les quelques athlètes qui ont nagé durant les JO, ce qui a suscité de l'espoir chez ceux qui militent depuis toujours pour cette baignade en ville.
Oui, on pensait que les lignes allaient bouger, on pensait que... Oui, bien sûr, on avait des attentes, hein.
Cet été, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu des sites de baignade organisés par la ville de Paris, ça s'est très bien passé, donc on était très très contents. Et puis, il s'est passé qu'au mois d'octobre, en fait, la police est fluviale et est venue nous dire que ce qu'on faisait était illégal et qu'il fallait arrêter.
6 mois plus tard, le fossé est encore grand entre certaines promesses et leur avancement. Y aura-t-il vraiment des baigneurs dans la Seine cet été? Y aura-t-il des habitants dans les appartements réaménagés du village olympique? L'engouement pour le sport, lui, est réel depuis la rentrée. Il y a bel et bien un effet JO, avec de nouveaux adeptes dans des clubs de tennis de table, de natation, de judo, d'escrime ou de BMX, mais les financements promis n'ont pas suivi. Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques en héritage, c'est un reportage signé Emma Sarango qui nous emmène d'abord dans le village olympique en pleine métamorphose.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Ça fait un peu plus de 15 jours que le village olympique et paralympique a fermé ses portes. Et donc le gros déménagement a commencé. La principale mission, c'est de vider tous les appartements de leur mobilier. Donc on va aller voir justement un appartement qui est en train d'être complètement vidé par les 600 salariés qui sont arrivés ici depuis la fermeture du village.
Laurent Michaud, directeur du village olympique et paralympique, jusqu'à la fin de l'année.
Laurent, donc là on est sur le Mail Finot, qui est une des artères centrales de ce village olympique et paralympique, et on a du mal à le reconnaître, ce village, quand on l'a connu fourmillant.
C'est vrai. On ne le reconnaît plus, parce qu'en effet, on n'a plus la décoration des délégations sur leurs bâtiments, leurs drapeaux, ni d'ailleurs les différents drapeaux de Paris 2024 qui étaient installés partout. Donc ça redevient en fait un quartier de ville, mais c'était son objectif premier. Donc c'est vrai qu'on est ravis de voir comment tout ça se passe à une vitesse extraordinaire aussi, et en pensant aux futurs habitants qui viendront s'installer ici.
On est dans un des appartements qui hébergeait combien d'athlètes? 2 athlètes, c'est ça?
C'est un appartement avec deux athlètes et donc le ratio est des deux athlètes par chambre maximum, 12 mètres carrés, la distance, la taille minimum hein, donc à respecter, et une salle de bain pour quatre athlètes. Les cuisines n'étaient pas installées, évidemment, ils n'avaient pas besoin de cuisine, et c'est ce que vont faire les promoteurs après que nous aurons remis les clés, donc ils réinstalleront les cuisines pour les futurs propriétaires, habitants de ces appartements.
Donc là, qu'est-ce qu'on a comme mobilier dans cet appartement ?
Alors ici, on voit deux lits avec donc le sommier en carton, le matelas ici, hein, qui est donc fait en fil de pêche recyclé et donc qui est donné et qui aura une deuxième vie après. Nous avons les tables de chevet avec aussi la liseuse et la multiprise. Ça faisait partie des équipements qui étaient nécessaires d'être installés pour que l'athlète puisse avoir tout ce qu'il a besoin pour vivre confortablement ici dans son appartement.
Vas-y, let's go.
On parle de village olympique, mais avec 9000 habitants, 9000 athlètes, ça ressemble plus à une ville.
TF1, 24 juillet 2024.
52 ans que les Bleus du hockey sur gazon n'avaient pas participé aux Jeux. Ils sont 6 à se partager un petit appartement.
Ici du carton.
Et à tester les lits dont tout le monde parle.
Quand on saute dans le lit comme ça ? Non, non, il casse pas. Un petit peu dur, mais ça sera très bien pour ces 3 semaines de compétition. Pas mal. Petite vue Tour Eiffel pour notre petite colocation d'étudiants sportifs de haut niveau.
Donc là, on est à l'intérieur de l'entrepôt où il y a une trentaine de personnes qui sont en train de mettre sur des palettes les canapés qui étaient dans les appartements des athlètes, qui sont en train de les emballer dans du film plastique avant que ces canapés décomposés en plusieurs parties n'aillent dans le camion à destination des appartements Emmaüs.
Je suis Caroline Louis, je suis manager économie circulaire chez Paris 2024. Pour tout ce qui est mobilier, les équipements sont offerts à Emmaüs et Emmaüs Défi pour être redistribués au profit des populations qui en ont le plus besoin. Dans les différents centres Emmaüs partout en France, donc dans les différentes ressourceries Emmaüs, les Français auront l'occasion d'aller acheter ce mobilier et de contribuer au modèle d'insertion d'Emmaüs. Et pour Emmaüs Défi, c'est la banque solidaire de l'équipement qui redistribue le mobilier à des personnes qui accèdent à leur premier logement, donc soit qui sont des personnes en situation de rue, soit qui ont eu différents logements de manière très temporaire et qui accèdent là de manière pérenne à leur premier logement.
C'est le grand départ pour tout ce mobilier qui s'engouffre dans les camions, direction les entrepôts Emmaüs, où les Français pourront trouver le lit d'Antoine Dupont à 30 euros ou la table de chevet de Raphaël Nadal à 15 euros. Le tout donc dans les centres Emmaüs. Ici, dans quelques mois, il y a donc 6000 habitants plus 6000 salariés qui vont arriver dans ce nouveau quartier. C'est en fait au cœur d'une zone qui est déjà habitée, hein. Donc forcément ça suscite pas mal de curiosité chez les riverains et puis chez les commerçants. On va aller voir donc dans la boulangerie qui est à l'angle du futur quartier. Bonjour. Est-ce que ça change un petit peu l'arrivée du village des athlètes ? Est-ce que c'est, voilà, depuis que les Jeux Olympiques sont terminés, il va y avoir des nouveaux habitants ? Est-ce que c'est bien pour le quartier ?
On attend l'arrivée des nouveaux habitants, des nouveaux organismes. Apparemment, il y a le ministère aussi qui arrive. Oui, bien sûr. Pour l'instant, bon, c'est un peu mort. Mais on espère qu'il y ait de la vie dedans, parce que là, c'est un peu triste, c'est tout. Il y a 5 ans, il y a avec nous, et le Franprix. Et sinon, avant même les 5 ans, c'était une zone morte. Même quand il y avait la cité du cinéma. Après, il y a eu l'arrivée du collège, ça a amené un petit peu d'effervescence. Et après, bon, nous, on est arrivés aussi avec les bâtiments. ça a un petit peu, ça a changé un petit peu le quartier, effectivement. Ouais.
Il va y avoir aussi des nouveaux commerces, tout ça, ça va vraiment être un...
Bah, mais de toute façon, après, le soleil brille pour tout le monde. Hein. Sûr qu'il y en aura des... J'espère que ça va être diversifié, parce que c'est pas le cas, on n'a pas de pharmacie ici, dans ce coin-là, on n'a pas de tabac. J'espère que ça sera juste fleuriste, que ça coiffeur, que ça sera... qu'il y aura un petit peu de tout, quoi.
Bonjour monsieur, vous habitez dans le coin ?
Si, je travaille dans le collège là.
Vous êtes prof de quoi ?
De français.
Voilà. Vous n'êtes pas ravi de cet emménagement ?
Des JO ou d'emménagement ? Bah, je vois pas trop ce que ça apporte, en fait. Okay. À part construire des nouveaux immeubles, détruire des choses qu'on construit. Voilà, c'est un peu tout le temps ça, de toute façon. C'est 93. Derrière le collège, ils ont rapetissé la cour pour construire un parking. Pour des véhicules, pour un mois de JO, et puis là ils détruisent tout. C'est Barjavel, hein, c'est ravagé quoi. Et après apparemment ils vont construire un parc. Voilà. D'accord. Bon, tout ça pour ça.
Est-ce qu'il y a un risque de gentrification dans ces quartiers ?
Il y a déjà de la gentrification et la plupart des élèves vont de plus en plus vers le privé, donc ouais, c'est déjà le cas.
Ça apportera pas grand chose justement en termes de mixité dans votre établissement du coup ?
Non, effectivement.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, merci à vous.
Vas-y. Dédicace à personne, fallait être là.
Mec touché.
C'est vous les élèves alors ?
Oui, vous parlez les
uns. Ben, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez du village des athlètes, là, des nouveaux bâtiments qu'il y allait avoir.
En fait, je suis allée avec ma trottinette, j'ai visité un peu. C'était bien, j'ai aimé les bâtiments, c'est à plein de couleurs.
Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, je trouve que c'est bien, qu'ils ont bien construit et ils ont eu une bonne inspiration.
On pense souvent que Saint-Denis c'est un quartier où il n'y a que des gens qui font n'importe quoi. Mais en fait, dans ce côté, on voit plus la valeur de Saint-Denis, quoi.
Bonjour monsieur. Vous habitez là depuis longtemps, vous ?
Non, ça fait 10 ans à peu près.
Quand même ?
Entre 5 et 10 ans, ouais.
Et vous pensez que ça va faire du bien au quartier, l'arrivée de ces nouveaux habitants
Bah c'est bien, parce que moi justement plus je cherche un logement, donc mais bon j'ai fait les demandes de logement social et je sais pas si c'est pour ces logements-là, donc parce que ça c'est pas des logements sociaux ça.
Il y en a quand même, il y a 30% environ.
30%. Ah bah c'est bien, ouais. Tu vas faire de la place, plus de place, parce qu'au niveau logement c'est dur hein, ici en France. Hein. Mais j'ai vu la nouvelle passerelle qui permet d'aller à la plein Stade de France, ouais, donc c'est pas mal.
Vous trouvez que globalement ce qui a été fait autour de chez vous pour les JO, c'est plutôt positif ?
Ouais, c'est positif, ouais.
Votre prénom c'est ?
Rémi.
Rémi. Merci beaucoup Rémi.
De rien.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alors pour répondre aux questions que peuvent se poser les riverains, la Solideo, la société qui a construit tous les ouvrages olympiques, organise régulièrement des réunions publiques. Et ce soir, elle a lieu dans le quartier Pleyel, autour du village des athlètes.
On est absolument ravis d'être là devant vous aujourd'hui. On a vécu des Jeux qui étaient, je trouve, extraordinaires. On était tous très fiers de ce qui s'est passé. Et en fait, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que nous sommes là. En fait, les Jeux sont passés, mais la mission de la Solideo, c'est la livraison de l'héritage. C'est notre ADN. Les quelques mois à venir, pour nous, c'est le dernier kilomètre à franchir. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous témoigner de notre extrême motivation pour que cette aventure d'un siècle, eh bien, on la mène jusqu'au bout avec toute notre passion, toute notre énergie, et qu'on vous livre un village qui satisfasse pleinement vos attentes.
On va prendre peut-être plusieurs questions. Allez-y, madame.
Oui, donc Samira Lehen, j'habite rue Ampère. J'ai deux petites questions. Déjà, je reste sur ma faim concernant les commerces, où j'ai peut-être pas été très attentive. Je ne comprends pas la typologie des commerces qui vont s'installer. Donc, boucherie et alimentaire, très bien, mais dont acte, est-ce qu'il y aura des restaurants, enfin, quelque chose qui permet une vie, finalement, dans la cité. Et deuxième question, je n'ai pas entendu les professionnels de santé. Parce que, comme vous le dites, on est sur un gros bassin de population, on n'a rien. Pas d'infirmière. J'ai pas vu de pharmacie, à part au niveau de Pleyel. et encore moins de médecins. Ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas si on a un début de réponse.
On a effectivement intégré le fait qu'il fallait des typologies diversifiées. Ce que vous évoquiez, c'était une offre de restauration. Ça fait partie du travail sur les pieds de l'immeuble actuel. Donc il y a à la fois l'alimentaire, il y a l'offre de restauration, il y a éventuellement des services complémentaires, coiffeurs ou autres. Et sur les professions de santé, c'était une question très forte qui a été posée par les deux communes, hein, Saint-Ouen et Saint-Denis. Donc c'est un sujet clairement qui a été identifié, donc qui a rentré aussi dans le détail. L'offre de santé, elle peut se faire en pied de l'immeuble, mais elle peut aussi éventuellement se faire dans des appartements hein, plus classiques pour un cabinet médical. Après, il y a la question de la configuration. Mais en tout cas, ça a été bien intégré. C'est une demande forte des collectivités. Et il y a aussi eu des échanges avec l'ARS sur le sujet. Donc ça fait partie des points qui ont été, intégrés et sur lesquels on travaille en ce moment avec les deux communes et pleine commune.
Bonjour, Stéphane Champon, habitant du quartier. J'avais une question concernant le mail Ada Lovelace. Il y avait un parc pour les enfants avant, il a été détruit. Est-ce que ça va être refait ou pas ?
Oui, alors ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille actuellement. On n'a pas oublié l'espace qui avait été retiré en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste nous laisser le temps, de faire ces travaux de transformation des espaces publics. Mais en tout cas, ça fait partie, des sujets qu'on a pris en compte.
Alors, je vois des mains qui se lèvent. Et puis à chaque fois, je vais vous inviter peut-être à vous présenter.
On va s'approcher de Yann Krizinski, qui est le directeur général de la Solidéo.
Très bien, madame.
Bonjour, Nathalie Carouet.
Il y a beaucoup d'attentes. Ça fait quand même 4 ans que les habitants voient et les riverains voient le chantier et puis ont vu les jeux. Et donc je pense que, et c'est tout à fait normal, il y a une certaine excitation, peut-être une certaine impatience. Est-ce que enfin on dévoile les espaces publics et les logements ?
Où est-ce qu'on en est de la vente des appartements sur le village des athlètes notamment ?
Alors, sur Saint-Denis-Saint-Ouen, on a à peu près 2300 logements. Seulement une partie a été commercialisée. Certains promoteurs ont choisi de commercialiser avant les jeux, d'autres n'ont pas encore commercialisé. Et malgré le contexte un peu compliqué, on a plus de 50% de ce qui est commercialisé qui est déjà sous promesse.
La raison d'être de la Solidéo, et c'est pour ça que c'est un modèle qui est pris, qui sera imité notamment pour les Alpes 2030, parce qu'on considère que ça a été une réussite pour les Jeux de 2024, la raison d'être, c'est de dire il faut qu'on évite à tout prix l'écueil des éditions précédentes des Jeux Olympiques, c'est-à-dire les éléphants blancs, ces constructions qui, derrière les Jeux, ne servent plus à rien. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, en fin d'année 2024, que c'est un écueil qui a été évité ?
Je pense qu'on a totalement évité l'écueil, parce qu'on a... On a eu ce travail de concert à la fois avec Paris 2024 et avec les collectivités pour en permanence se redire que les ouvrages, ils avaient à chaque fois bien 2 usages et qu'on était certain que l'usage héritage était totalement pris en compte. Voilà, on a déposé des permis de construire double état sur le village des athlètes qui nous garantissent qu'on a déjà l'autorisation de réaliser cette reconversion. C'est un exemple parmi d'autres qui montre à quel point on a essayé d'anticiper dans toutes les phases de conception, la reconversion des ouvrages. Et dans les mois qui viennent, en fait, au fur et à mesure des inaugurations des ouvrages, je pense qu'on sera de plus en plus rassurés sur le fait que les ouvrages auront bien pris vie.
Il n'y a rien qui a été construit par la Solidéo, sous l'égide de la Solidéo, pour les Jeux Olympiques, qui ne servira plus en 2025.
Non, parce qu'en fait, dans notre raison d'être, dans nos statuts, nous n'avons construit que des ouvrages qui ont un usage pérenne.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel financement de la Solidéo et la part d'argent public de l'État et des collectivités qui a été versée pour financer tous ces ouvrages que vous nous avez décrits ?
Le coût de la construction des ouvrages olympiques, donc toute source de financement confondue, c'est environ 4,5 milliards d'euros. Sur ces 4,5 milliards d'euros, le montant public, c'est 1,7 milliard d'euros. Et l'État est financeur à peu près de 2/3. Et dans le tiers restant sur les 1,7, les financeurs principaux, ce sont la région, le CD93, la métropole du Grand Paris et la ville de Paris.
Pour la ville de Paris, l'un des plus gros défis reste la baignade dans la Seine. Malgré les obstacles qui demeurent, les Vélib qui rouillent dans l'eau ou la pollution au gré des intempéries. Cette baignade a longtemps été un serpent de mer. et Anne Hidalgo a réussi son pari de la rendre possible pour les athlètes à l'été 2024. Près d'1,5 milliard d'euros ont été dépensés pour cela. À l'été 2025, cette baignade à Paris deviendra-t-elle pérenne ? Il est question d'ouvrir 3 sites, au Bras-Marie, au Bras de Grenelle et à Bercy. Pour l'instant, se baigner est interdit et ceux qui trempent un orteil dans l'eau le font à leurs risques et périls. Les Ourcs polaires sont un collectif qui milite pour nager dans le fleuve et ses canaux, été comme hiver. Emma Sarango nous fait plonger avec eux au bord du canal de l'Ourc.
On nous a demandé de ne pas dire précisément où on était ce matin. On est quelque part au bord du canal, à l'écart des habitations. C'est un dimanche d'hiver. Il y a des baigneurs qui plongent ce matin pour la toute première fois.
J'avais un peu la trouille. Bah oui, je savais pas comment j'allais réagir, ouais. Parce que c'est quand même spécial, hein. Et non, c'est super. Elle est très très douce. Ça détend. On a l'impression d'avoir mis tous les soucis dans l'eau. Plus de courbatures. J'ai fait plein de petits mouvements qui me faisaient du bien. Et puis l'environnement est super chouette.
Vous êtes fière de vous ?
Je suis bien surtout. C'est pas... Je suis bien.
Voilà. Est-ce que vous avez certaines réticences uniquement par rapport au froid ou aussi par rapport à la propreté de l'eau et la qualité de l'eau ?
Ah non, la propreté de l'eau, en fait, je ne me fais pas du tout de soucis là-dessus. On se baigne en Bretagne beaucoup et l'eau est beaucoup plus sale en Bretagne qu'ici parce qu'il y a beaucoup plus de rejets. Donc non, ça n'a aucun souci. Et puis c'est beau, enfin l'eau est magnifique. Merci beaucoup.
Réchauffez-vous bien. On va s'approcher d'un petit groupe qui sort de l'eau.
Ça va ?
Ouais.
Ça picote !
Alors eux, ça fait plusieurs années qu'ils militent pour pouvoir se baigner dans les canaux et dans la Seine.
Ça picote les mains.
Forcément, ils attendaient beaucoup des Jeux Olympiques.
Après, ça tire un peu.
C'est toujours dur de voir des gens qui vous font un gros sourire. Je pense qu'on a dû vous le raconter, quoi, quand on s'est baigné avec la maire de Paris. Elle se dit « Ah, bravo les ours, vous êtes les pionniers !»
Elle nous a remerciés d'avoir initié.
C'était le jour de la baignade.
Avant, ouais, c'est 3 jours avant
la baignade officielle.
Et Anne Hidalgo, qui ça y est dans la Seine, chose promise, chose due.
France Info, 17 juillet 2024.
La maire de Paris qui donc se baigne en direct. Chose promise, donc chose due. On peut vous dire aussi qu'il y a des dizaines de spectateurs massés sur les quais, sur les ponts, pour assister à cette image assez attendue.
Je resterai pas longtemps.
Naïvement, on se dit tiens, ça va faire bouger les lignes et puis ça bouge pas, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que bah là, nous, on apprend finalement à prendre un peu le maquis. C'est un maquis, c'est un petit maquis, c'est un joyeux maquis, ce canal et ce groupe.
Oui, donc moi ça fait 2 ans maintenant que je me baigne au canal. Et en fait, ce à quoi on aimerait arriver, c'est une autorisation, comme dans la plupart des pays européens, de se baigner sous notre responsabilité civile. Ben, vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous allez au Danemark, les eaux vives sont pratiquées. Donc après, vous voyez, les températures, on ne sera pas nombreux. Je veux dire, il ne faut pas croire que tout le monde va se jeter dans le canal en prenant des risques. Hein. Nous, on respecte une charte avec 10 consignes de sécurité. On se surveille les uns les autres. On aimerait pouvoir le faire toute l'année en toute légalité.
C'est quoi les consignes de sécurité que vous imposez ?
Alors, jamais seul, tu ne te baigneras. Bon, on doit avoir une bouée. On n'est jamais moins de 3. On accueille les tremblements en sortant. On n'essaye pas de faire des chronos, quoi. On n'essaye pas de trop nager. Vous avez vu, moi, j'ai presque pas nagé. J'ai pas mis ni la tête dans l'eau. J'ai même pas mis les mains dans l'eau. Donc,
C'est un gré pour vous. Vous attendiez mieux du poste JO, justement, par rapport aux promesses de baignade dans la Seine.
Ben oui, oui. Oui, on pensait que les lignes allaient bouger. On pensait que... Oui, bien sûr, on avait des attentes, hein. Ouais, j'attends Morgane.
Bon, cet été, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu des sites de baignade organisés par la ville de Paris, ça s'est très bien passé. le groupe des ours qui a été invité par Madame Hidalgo, la maire de Paris, à se baigner avec elle. Donc on était très très contents. Et puis il s'est passé qu'au mois d'octobre, en fait, la police est fluviale et est venue nous dire que ce qu'on faisait était illégal et qu'il fallait arrêter.
Qu'est-ce que ça apporterait que la Seine soit baignable vraiment sur le long terme?
Bah, déjà, ça voudrait dire qu'elle soit plus propre, parce que évidemment, donc ça veut dire une conscience collective de, en amont, en aval, des eaux usées, peut-être de la façon dont on use l'eau et dans les industries, dans l'agriculture. Puis au quotidien, avec le réchauffement climatique, ça a quand même, enfin, regardez dans n'importe quel quartier populaire, les jeunes se baignent. Hein. Dans les rivières. Donc c'est de la responsabilité publique. C'est un parc en fait, c'est un square aquatique. De tout temps, l'homme a grandi près des rivières, c'est l'endroit dont on a besoin. Paris s'est construit autour de la Seine. Donc.
Vous tremblez, vous voulez mettre.
Ouais, non, mais c'est bien. Non, c'est le moment où on grelotte toujours. Il y a le petit moment où en fait c'est le corps qui se réchauffe, c'est le moment naturel. Après, je pense qu'il faudra vraiment discuter de cette histoire de la baignade à nos risques et périls, comme en mer. Parce que tout le littoral français est baignable de cette façon. Bon, les villes, c'est des grosses densités, il n'y a plus la tradition. En mer, les familles, les enfants connaissent les dangers. Il y a des dangers vraiment énormes à se baigner là. Il peut y avoir des caddies, il peut y avoir des vélos, des bouts de ferraille. C'est ça le danger, hein. C'est plus que les bactéries.
Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on vous dit, c'est les collectivités qui sont responsables de vous, donc le faites pas.
Bah, à chaque fois qu'il y a un danger, évidemment, pour un maire, un préfet, c'est compliqué, quoi. Personne ne veut prendre cette responsabilité. Donc c'est une responsabilité que, collectivement, on devrait être capable de dire, oui, nous, on veut cette liberté. Alors, est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est... Il y a eu ça, par exemple, pour les trottinettes. Bon, à un moment, les Parisiens disent... Ok, on est prêt à prendre ce risque. Je sais pas, il doit y avoir, je suis pas juriste, je suis pas, faut imaginer, il faudrait se mettre autour d'une table pour réfléchir à ça, parce qu'évidemment, ça pose des vraies questions de noyade, etc.
Votre serviette est beaucoup trop légère, vous faites froid. Ouais. Je vous laisse aller vous réchauffer.
C'est parti.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Justement, le préfet d'Île-de-France réunit toutes les parties prenantes pour faire un point d'étape sur la baignabilité. Ce sera l'avant-dernier avant l'été prochain.
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là avec Pierre Rabhadon. On vous remercie infiniment d'avoir pris sur votre temps pour ce nouveau comité de pilotage qualité de l'eau et baignade. Moi, mes premiers mots sont bien sûr de remerciements à l'égard de tout le monde. Grâce au travail qui a été réalisé par les uns et les autres, l'été olympique s'est bien passé. Vous connaissez les chiffres, on a engagé ensemble plus d'1,1 milliard d'euros de travaux. La qualité de l'eau était au rendez-vous pour les épreuves olympiques. Finalement, dans tout ça, nous étions bien d'accord ensemble que c'était... une étape fondamentale, mais seulement une étape, puisque le but aussi, c'est de permettre que les Franciliens bénéficient de la Seine pour s'y baigner, bénéficient de la Seine dans un usage partagé avec tous les autres acteurs du fleuve. Nous allons maintenir, nous, État, les financements à un haut niveau pour continuer à améliorer la qualité de l'eau dans les mois et les années à venir.
Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe évidemment au Préfet pour vous remercier du temps consacré une fois de plus sur cet objectif majeur qu'on a relevé collectivement. Je crois que pour tous ceux qui ont pu assister aux épreuves en Seine, mais aussi à celles qui se sont passées partout en France, en Île-de-France et à Paris, on a été à la hauteur de l'histoire, si je peux dire. Mais qui n'était qu'une étape finalement, et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui pour avoir un héritage concret et majeur qui est la requalification de la Seine et la reconquête environnementale du fleuve. Et c'est de ça dont on va continuer à parler aujourd'hui, puisque l'étape de l'été 2024 est passée. Il nous reste maintenant à continuer d'améliorer la qualité de l'eau, pas uniquement dans Paris, mais sur l'ensemble du bief. Plus de 20 collectivités, je crois, ont manifesté un intérêt à accueillir une baignade dans les prochaines années. Je crois qu'on a relevé un défi qui était historique, il faut savoir se le dire aussi, et j'espère que chacun d'entre vous y prend sa part. Mais il nous reste encore à faire, et c'est bien l'objet de ce COPIL,
Voilà, donc merci et merci encore pour ce qui arrive et pour ce qu'il nous reste à faire ensemble.
Alors, on nous demande de sortir de la réunion. La fin des échanges, nous dit-on, est confidentielle.
Marc Guillaume, je suis préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Comme on n'a pas pu assister à la totalité du comité de pilotage, est-ce qu'on est aujourd'hui dans les temps de ce qui était prévu et dans les temps de passage ?
Il y a deux choses de nature différente pour ouvrir des sites de baignade. Il y a d'une part la qualité de l'eau. Ces travaux pour la qualité de l'eau, ils ont été opérés de manière très dynamique pour arriver à ce que les épreuves olympiques se tiennent dans la Seine. Il faut bien sûr continuer, mais ce travail-là, il est largement fait, même si nous allons continuer à le poursuivre. Et puis il y a d'autre part des travaux d'une nature différente pour assurer la sécurisation de ces sites de baignade, pour assurer le partage de l'usage du fleuve. Et ces travaux-là, ils sont en cours et ils sont dans les temps, l'été prochain, par exemple pour Paris, sur la Seine, à la hauteur de Grenelle, du Pont-Marie et de Bercy. Et des travaux analogues sont menés dans le Val-de-Marne, par la préfecture du Val-de-Marne. Il y aura des sites ouverts l'été prochain pour la baignade des Franciliens.
Vous pouvez nous dire à quoi ça va ressembler ? Ça va être des espèces de plages ?
Alors, pas dans les sites parisiens, puisqu'il n'y a pas de plage à Paris, mais il peut se trouver qu'en bord de Marne, il y a des endroits qui ressembleront davantage à des plages. Il y a plusieurs communes qui sont candidats, qui y travaillent. Donc, le terme plage est plus adapté pour certains des endroits du bord de Marne que pour Paris. À Paris, la mairie travaille à des sites pour arriver à sécuriser les sites de Grenelle et de Bercy, parce que nous aurons une séparation de la zone de baignade et de la zone pour les bateaux. Dans le Bras-Marie, ça sera différent, ça ressemblera plus à la baignade du 17 juillet à laquelle vous aviez assisté, peut-être même vous étiez vous baigné.
Quelle est l'ambition plus largement du préfet d'Île-de-France qui a en charge la Seine sur le rôle que doit avoir le fleuve au sein de la ville ? Certains nous disent qu'il faut que ce soit finalement comme un parc de jeux. Est-ce que c'est illusoire ? Est-ce que c'est utopique ? Ou est-ce qu'effectivement on peut se réapproprier la Seine à ce point ?
Il faut que la Seine soit effectivement partagée par tous ses utilisateurs de manière pleine. Jusqu'à présent, certains des utilisateurs, les baigneurs, n'étaient pas de la partie. Demain, il faut qu'ils le soient. Pour autant, les autres usages sont très importants, y compris pour la transition écologique dont on voit les premiers effets. Hein. On sait qu'on est passé d'une dizaine d'espèces de poissons à 35, 39, donc ça c'est extrêmement positif. Il faut continuer. Par exemple, on a un gros effort que nous avons mené et que l'on va poursuivre pour le verdissement des bateaux. Une quarantaine de bateaux ont été verdis pour les Jeux Olympiques. Ce programme doit se poursuivre pour qu'à terme, ça soit la totalité de la flotte, qu'il soit une flotte propre et qu'elle participe également de ce bon état de la Seine. Il faut qu'on évite les rejets sauvages. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on montre que l'usage de la Seine, ça ne peut pas être de la baignade sauvage. Parce que justement, ça ne serait pas sûr et qu'il faut qu'on arrive à organiser ce partage de l'eau.
Est-ce que le fameux cap psychologique, vous pensez qu'il est passé chez les Français de voir le préfet d'Île-de-France, la maire de Paris se baigner dans la Seine, de voir les triathlètes se baigner dans la Seine, ça a donné envie à certains Franciliens. Est-ce que vous pensez qu'il y aura du monde l'été prochain dans la Seine ?
Mais bien sûr, ça va être un immense succès. Si vous voulez, dans les images mythiques des Jeux Olympiques, la victoire de Cassandre Beaugrand, en face des Invalides, restera l'une des plus beaux souvenirs. Et tout le monde s'est rendu compte que là aussi, ceux qui pronostiquaient que nous n'y arriverions pas avaient tort, parce que tout le monde s'est mobilisé. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de visites depuis l'été dernier, y compris de visites de délégations américaines, par exemple du Mississippi, venant nous voir pour nous demander comment on avait fait, comment l'État avait coordonné ce travail pour s'en inspirer chez eux. Bon, évidemment, nous serions très heureux que Paris puisse, en la matière, être un exemple.
Cassandre Beaugrand peut-elle aller décrocher la sixième médaille d'or française depuis le début de ces Jeux Olympiques?
Ça décroche un peu.
Ouais, ça pique pour Malo Bardi. Elle est en train de lâcher Malo Bardi et Cassandre Beaugrand accélère. Cassandre Beaugrand réalise l'exploit de décrocher la médaille d'or aujourd'hui.
Et l'héritage sportif, quel est-il ? Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Français ont découvert des champions devenus des icônes. Léon Marchand, avec ses 4 médailles d'or et une 5e en bronze dans les bassins, ou les frères Félix et Alexis Lebrun, 3 médailles avec leur raquette de ping-pong. La star du judo Teddy Riner a encore fait rêver avec l'or décroché sur les tatamis et l'équipe de rugby à 7 autour d'Antoine Dupont. La France a raflé au total 64 médailles, se hissant à la 5e place au classement des athlètes. Performance honorable, mais moins spectaculaire que les athlètes britanniques en 2012. Ils avaient terminé sur la 2e marche du podium lors des JO de Londres, alors qu'ils n'étaient que 36e à Atlanta 15 ans plus tôt. Avec ces JO de Paris 2024, la France devait devenir une nation sportive de premier plan. L'activité physique et sportive avait d'ailleurs été décrétée grande cause nationale par le président Macron. Mais dès la fin des Jeux, le budget évoqué pour le ministère des Sports était en baisse de 200 millions d'euros. Et dans les clubs amateurs, l'effet JO ne semble pas vraiment avoir été anticipé, comme dans ce gymnase parisien où Emma Sarango nous emmène au milieu des balles de ping-pong.
France Inter, Interception.
On est un jeudi soir d'hiver, et 19h, il fait nuit, et dans une petite salle, un gymnase du 18e arrondissement de Paris, il y a le tournoi de fin d'année du club Le Pic Populaire, qui est un club multisport qui fait notamment du tennis de table. On va assister à l'un des cours. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le prof ?
Oui, je suis un des profs. Donc moi, je m'appelle Larbi. Donc moi, j'entraîne plutôt le mardi.
Est-ce que vous avez constaté un effet JO et un effet Frère Lebrun ?
Bien sûr, bien sûr. Un effet JO. Je pense par rapport au nombre de personnes qui se sont inscrites. Donc on a pas mal de monde. Oui. Peut-être que les deux frères Lebrun, ils ont fait en sorte que tout le monde fasse du ping-pong et c'est pas mal. C'est pas mal. Et les gens adorent. Il y a même des débutants qui n'ont jamais joué au ping-pong. Dès qu'ils ont regardé les JO, bah, en fin de compte, et bah, ils ont aimé et ils viennent tous les temps.
C'est une bonne chose qu'il y ait autant d'engouement ?
Je pense que c'est une bonne chose pour le tennis de table. Oui, oui, c'est une bonne chose. Parce qu'avant, en fait, c'était pas très visible, le tennis de table. On avait toujours tendance à aller jouer dans les jardins. Il y a du loisir et des gens qui veulent progresser pour faire de la compétition.
Et en général, vous avez assez de tables pour le nombre d'élèves ?
Alors là, on peut mettre 6 tables ici. On a une salle derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut mettre une table. Ouais, on peut avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personnes. Donc pour la première tranche d'heure, c'est bon. Et la deuxième tranche d'heure, en fait, il y en a qui partent et les autres arrivent en fait.
Votre prénom, c'est
Léo.
Tu as quel âge, Léo ?
J'ai 13 ans.
Tu as commencé quand, le ping-pong ?
Cette année, voilà, en septembre, et bah, franchement, c'est incroyable. Puis maintenant, je viens 4 fois par semaine. C'est un peu dur physiquement, mais ça, je tiens le coup.
Est-ce que tu crois qu'avec les Jeux Olympiques et les frères Lebrun, il y a de plus en plus de jeunes qui vont vouloir jouer ?
Je pense, oui, je pense clairement. Parce que ça fait rêver, c'est sûr. D'atteindre un tel niveau avec une fratrie, c'est bien, je trouve. Et donc forcément, bah, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui va jouer au ping-pong.
Donc Raphaël, tu as quel âge ?
Moi j'ai 28 ans.
28 ans, donc t'es un tout nouveau du club ?
C'est ça, ouais, j'ai commencé cette année en mois d'octobre.
T'as pas eu du mal à trouver un club ?
Un peu, parce que je me suis pris tard. Et ça a été pas mal pris d'assaut, j'imagine. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient complets déjà, où j'ai essayé d'appeler, on me disait « bah non, on est déjà pris pour la saison, on est déjà complet, donc réessayez l'année prochaine quoi ».
Donc tu as dû t'exiler à 45 minutes de chez toi quand même.
C'est un peu ça, ouais. Mais à Paris, ça va, ça se fait bien en transport. Et puis tu sors du travail, tu viens là, tu fais ton sport et c'est cool. C'est sympa.
Je pourrais pas allonger un peu ton geste. Donc reste toujours, remets ta raquette toujours dans cette position. Tu repars, tu reviens, tu repars, tu reviens. Okay. Et n'hésite pas à bouger un petit peu ton bassin comme ça.
Ouais, c'est un peu
plus de fluidité, voilà.
Alors, je m'appelle Camille Palazzo, je suis coordinateur d'un club sportif de quartier, on va dire, du 18e arrondissement. Je fais ça depuis une dizaine d'années. On manque énormément de créneaux pour réellement servir tout le monde, enfin toutes les personnes qui auraient besoin d'accéder à la pratique. Moi, j'essaye au maximum de trouver la limite pour rendre possible le vrai potentiel, qui est en fait probablement, par exemple pour le tennis de table, pour nous, on estime que c'est le double des adhérents qu'on a, qui devraient pouvoir être accueillis normalement si on avait les installations adaptées.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous êtes environ à 150 adhérents, vous estimez qu'autour du 18e, il y a environ 300 personnes qui seraient intéressées pour rejoindre votre club.
Le potentiel, ce serait à peu près ça.
Est-ce que depuis la rentrée, depuis cette rentrée de septembre 2024, vous avez dû refuser des gens qui ont tapé à votre porte, peut-être par effet olympique, et à qui vous avez dit bah « non, j'ai pas assez de place, mes créneaux sont trop courts ».
Alors, on refuse chaque année un petit peu, et cette année, on a refusé plus, en particulier pour les jeunes, parce que nos créneaux jeunes, on a vraiment des plages horaires qui sont très limitées. Il faut que ce soit après la classe et avant 20h. Et donc, oui, beaucoup de jeunes n'ont pas pu jouer du tout dans le club et l'ont demandé. Et d'autres aimeraient pratiquer plus, peut-être deux fois dans la semaine, peut-être trois fois dans la semaine. Et on leur dit non parce qu'on est, on est bloqué par les installations.
Il y a eu quand même, grâce aux Jeux Olympiques, des constructions neuves dans le 18e arrondissement. Est-ce que vous avez pu en bénéficier ?
Il y a eu une grande installation là, dans le 18e, la Didas Arena. On nous a beaucoup vendu que ce serait des créneaux pour le sport de proximité. Malheureusement, comme il y a un grand mécène, il y a un grand club qui est là, il va quand même occuper une bonne partie des créneaux des gymnases qui sont construits en annexe. Moyennant quoi, là, pour le bol d'air des installations, on n'a rien vu venir. Et nous, on a eu plutôt de la chance dans le 18e, dans la période précédente où il y a eu des nouveaux gymnases de construits.
Ce constat, il est partagé par une grande majorité du monde du sport. Et on va se rendre maintenant au département STAPS, donc sciences appliquées au sport, de la fac de Créteil. Et on va rencontrer Guillaume Ditsch, il est professeur de PS, agrégé de STAPS et auteur du livre « Les jeunes et le sport, penser la société de demain ». En arrivant, on a vu dans un des gymnases une fuite d'eau. Et on a vu qu'il y avait un peu de bricolage à droite, à gauche. Dans quel état est votre département de sport aujourd'hui ?
Alors oui, c'est vrai que c'est une réalité, je pense, aujourd'hui, la vétusté des installations sportives. Alors pour nous, à l'université, dans les établissements scolaires ou encore dans les clubs, en moyenne, on peut dire qu'entre 30 et 50% des installations ont plus de 30 ans en France. Donc leur modernisation, plus que la création de nouvelles installations, c'est une vraie question et un vrai sujet, je pense, pour nos politiques.
Quand on a décroché les Jeux il y a 7 ans, vous imaginiez que finalement rien n'aurait changé à l'issue des Jeux, notamment sur la qualité de vos installations ?
Très vite, les acteurs finalement de terrain, les professionnels, ont pu émettre certains doutes. On n'était pas naïfs.
Et pire encore que ces attentes, il y a eu quasiment au lendemain de la fin des Jeux paralympiques l'annonce d'une baisse importante du budget du ministère des Sports, de baisse de dotation aussi des collectivités, tout ce qui finance le sport aujourd'hui. Le résultat est presque pire que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Oui, je pense que cette idée d'avoir presque un peu la gueule de bois au lendemain d'un moment que certains ont qualifié peut-être de parenthèse un peu enchantée, d'un moment où effectivement les Françaises, les Français se sont réunis autour, il est vrai, d'un événement qui a été une réussite en termes d'organisation, d'image aussi, de rayonnement pour la France. Donc nécessairement, le contre-coup a été très brutal, très soudain. Il est vrai qu'on se pose quand même la question ici de la vision et de la place du sport en France qui, finalement, pour nos politiques, n'a pas vraiment changé dans leur représentation et reste, finalement, la variable un peu d'ajustement.
L'une des grosses déceptions de cet après-jeu, c'est le paralympisme qui a été très mis en avant pendant 15 jours, célébré, vanté. Là aussi, le soufflet est très vite retombé.
On se rend bien compte quand même qu'il y a eu un impact médiatique sous l'idée que justement, dans ce rôle modèle, des personnes en situation de handicap ont pu se dire « Tiens, peut-être que moi aussi, je vais pouvoir pratiquer un sport, je vais pouvoir faire de la boccia, je vais pouvoir peut-être m'engager même sur des formes plus traditionnelles, m'adapter, ceux du triathlon ou autre. » On a eu des sportifs et des sportives quand même, je pense, qui ont fait honneur à ces questions. Maintenant, quand Tony Estanguet évoque cette idée de faire la révolution du paralympisme, là, il est vrai que le couperet, quand même, est tombé, notamment lorsqu'on pousse un peu la porte des gymnases et on se rend compte que lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est adulte, mais en situation de handicap, finalement, on a des installations toujours pas adaptées pour le parasport. On manque aussi cruellement, je dirais, d'éducateurs, mais formés à ces questions.
Qui vont être nos champions en 2028, en 2032, si aujourd'hui dans les universités, dans les écoles, eh bien, on ne donne pas les moyens au sport. Est-ce que finalement, ce top 5 durable qu'avait prôné Emmanuel Macron, top 5 au classement des médailles, il est crédible si au lendemain des Jeux, on coupe déjà les moyens ?
Pour moi, ça questionne encore une fois le modèle sportif. Est-ce que effectivement la perspective pour 2028, est-ce qu'on va rester sur la politique sportive en France qui est sous De Gaulle d'augmenter la masse de pratiquants, de démocratiser la pratique sportive pour toutes et tous à l'école et dans les clubs, et de cette démocratisation, de cette massification, penser qu'on va pouvoir en ressortir une élite. Une élite, je parle bien en termes de nombre de sportifs et sportifs performants. Ou alors est-ce que effectivement, par rapport à cette période de restrictions budgétaires, mais peut-être aussi par une manière différente de penser le sport, on va envisager peut-être en comparant un peu le modèle américain, j'irais une centration sur des moyens pour certaines fédérations, pour certains sports, où on pense pouvoir capitaliser et obtenir un nombre de médaillés plus conséquent.
Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques en héritage. C'était un reportage signé Emma Sarango. À la prise de son, Johanna Gabric, Lucien Lefebvre, Laurent Macchietti, Raymond Alboui et Florent Bujon. Réalisation Guillaume Giraud. Mixage Bastien Varigaud. Pour réécouter cette émission, les précédentes ou les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.